France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille le théâtre en personne, ce grand art que mon invité incarne depuis plus de 50 ans, contre vents et marées. Mais Jean-Laurent Cochet est aussi un amoureux de la musique, ce qui l'a conduit à mettre en scène Les Noces de Figaro ou Véronique. Et il nous parlera peut-être de son amitié avec Barbara ou Patachou, sans oublier ses élèves reconnaissants. De Gérard Depardieu à Fabrice Luchini, rendez-vous avec Jean-Laurent Cochet dans une vingtaine de minutes. En fin d'émission, vous retrouverez la chronique de Jean-Christophe Keck. Mais pour commencer, le ciel gris et humide de ces derniers jours m'a donné envie, après les jardins sous la pluie, de ressortir cette chanson.
Il pleut dans ma chambre, j'écoute la pluie de septembre qui tombe dans mon lit. Le jardin frissonne, toutes les fleurs ont pleuré pour la venue de l'automne et pour la fin de l'été. Mais la pluie fredonne sur un rythme joyeux. Tip et tap, tip top, et tip et tip, tip et tip, et tip top, et tap, voilà ce qu'on entend la nuit. C'est la chanson de la pluie. Demain le jour fleurira sur vos lèvres, mon amour, et la pluie qui calme notre fièvre sera loin, très loin, dans la mer, voguant sous le ciel clair. Demain les bois auront fait leurs toilettes et les toits peints de frais auront un air de fête. Les oiseaux contents de ce shampoing ne se plaindront point. Il pleut dans ma chambre, il pleut dans mon cœur, douce pluie de septembre chantonnaire. Moqueur, dans toute la campagne poussent de beaux champignons, et dans la montagne, le vent joue du violon. Tous les chats de gouttière chantent et dansent en rond. Tip et tap, et tip top, et tip et tip, tip et tip, et tip top, et tap, voilà ce qu'on entend la nuit, c'est la chanson de la pluie. Il pleut dans ma chambre, il pleut dans mon cœur, douce pluie de septembre chantonnaire, moqueur. Dans toute la campagne poussent de beaux champignons, et dans la montagne le vent joue du violon. Tous les chats de gouttière chantent et dansent en rond. Dip, tap, tap, dip. Miaou et tic-tac, toc, voilà ce qu'on entend la nuit, c'est la chanson de la pluie.
Et c'est vrai que moi-même, la nuit dernière, j'écoutais la pluie crépiter dans mon lit. C'était très, très agréable, comme dans cette chanson de Charles Trenet, enregistrée en 1938 avec l'orchestre de Valberg. Et puis parmi les autres raretés que j'ai ressorties cette semaine, il y a ce disque japonais qui m'a été offert par une auditrice de l'émission dans un salon du livre où elle signait. Elle s'appelle Hélène Gestern, elle est romancière. Moi-même, je signais, elle est arrivée, elle m'a dit « J'écoute souvent, étonnez-moi Benoît, j'ai rassemblé pour vous quelques chansons japonaises amusantes. Vous savez que j'aime bien le Japon lorsqu'il mélange les genres, donc un mélange un peu kitsch, le blues japonais, le rock japonais. Et bien voilà du tango japonais et ça s'intitule « L'ombre du marronnier ».
Thank you.
た遠く君は去りて我が胸に残る痛みや思い出の孫に家の木陰今日も溢る熱き涙よ空は暮れて丘の葉
Ça s'intitule donc L'ombre du marronnier et ça nous vient tout droit du Japon. Merci à Hélène Gestern qui m'a fait découvrir cette chanson. J'en profite pour vous recommander son roman. Ça s'appelle E sur la photo d'Hélène Gestern. C'est paru aux éditions Arléa. On parle du renouveau manouche, et bien là c'est l'original, c'est Saran Ferré et ses frères, trois grands guitaristes, Saran Ferré, Baro Ferré, Matelot Ferré, avec Maurice Spelleux et également au violon Robert Bermoser. C'était enregistré à Paris en juin 1941. Un petit tour au pays de l'opérette, on y retournera d'ailleurs dans un instant avec mon invité Jean-Laurent Cochet. Mais la semaine dernière, je vous ai fait entendre une jolie chanson égyptienne de Reda Kerr, ce merveilleux ténor, aujourd'hui un peu oublié lui aussi, qui doit son nom d'ailleurs au fait qu'il est né dans la ville du Caire, c'est pour ça qu'il a pris ce pseudonyme. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que Reda Kerr a énormément chanté l'opérette, ça n'a pas seulement été une vedette de la chanson, un ténor à la Tinor aussi, c'est aussi un grand musicien d'opérette, il en a créé des quantités entre les deux guerres, comme par exemple Balalaïka, opérette à grand spectacle, créée à Mogador, et puis les opérettes de Gabaroche et encore quelques autres qu'on peut retrouver dans un disque chez Marianne Melody. Justement, il y a plusieurs volumes Reda Kerr, dont un consacré aux enregistrements d'opérettes assez nombreux. Il existe également une collection chez Sélection du Reader's Digest, deux chansons d'opérettes par Reda Kerr. J'en ai choisi une, alors d'une opérette complètement oubliée de Raoul Moretti, grand auteur de l'époque, mais celle-ci a été créée à Bordeaux en 1939, il n'en est pas resté grand-chose, elle s'appelait Destination Inconnue et pourtant elle comporte deux jolies chansons comme celle-ci, interprétée donc par Reda Kerr.
Que je vous aime d'amour extrême, dimanche d'autrefois, dans ma mémoire c'est votre histoire que souvent je revois. Simple aventure pure, mais touchante pour moi. Sur la route blanche, un petit âne trottinait. C'était un dimanche, tu nous emmenais promener. Parfois tu me prêtais le fouet, joyeux je le faisais claquer. Le petit âne s'en moquait, ça ne le faisait pas presser. Et la route blanche, sous ses sabots se déroulait. C'était un dimanche, dans les champs les fleurs embaumaient. Et Cain, toujours au petit trot. Pour moi nous arrivions toujours trop tôt. Mais on augmente jusqu'à 130 le rythme des parcours. Sur des bolides lourds et rapides, on fonce, on file, on court. Et moi je songe, l'âne des vieux jours. Sur la route blanche, un petit âne trottinait. C'était un dimanche, tu nous emmenais promener. Parfois tu me prêtais le fouet, joyeux je le faisais claquer. Le petit âne s'en moquait, ça ne le faisait pas presser. La route blanche, sous ses sabots se déroulait. C'était un dimanche, dans les champs, les fleurs embaumaient. Et Cain, toujours au petit trot. Pour moi, nous arrivions toujours trop tôt.
Le petit âne, à ne pas confondre avec celui de Maurice Yvain, quelques années après. Là, c'était en 1939, donc dans Destination Inconnue de Raoul Moretti. Alors, on ne compte pas les enregistrements d'opérette de Reda Kerr. J'en ai choisi un autre extrait de La Veuve Joyeuse, parce que c'est un peu l'œuvre qui l'a fait connaître. Reda Kerr, en effet, qui était un jeune homme assez pauvre à Marseille, avait appris, pour essayer de se faire connaître, la quasi-totalité du répertoire d'opérette française et viennoise. Il l'avait tout appris par cœur, et puis il écrivait au directeur pour se faire engager. Et il a fini par réussir avec La Veuve Joyeuse. Il a enregistré des années plus tard une sélection de cette opérette avec Fanélie Révoil.
«
Opérette entière en 3 minutes 19, on savait bien faire ça dans les années 30, là il s'agit donc de La Veuve Joyeuse bien sûr, avec Ray Daquer et Fanélie Révoil, enregistré le 13 juillet 1934.
Thank you.
Et c'était monsieur Albert Kettelbey, l'immortel auteur de Sur un marché persan, entre autres, et de beaucoup de pages pittoresques. Là, il s'agissait de Wedgwood Blue, en référence non pas à un grand voyage, mais à une porcelaine anglaise d'inspiration chinoise, les porcelaines de monsieur Wedgwood, et donc au bleu particulier de certaines de ces porcelaines. C'était interprété par le Royal Philharmonic Orchestra sous la direction d'Eric Rogers. Nous allons retrouver tout de suite mon invité, mais auparavant, une petite page de publicité.
Symbole de la France. Le coq, première marque de lame de rasoir française. Pour vous raser sans effort, exigez, monsieur, la lame française Le Coq. Serez surpris de sa merveilleuse durée. Sur visage bien rasé, lame Le Coq a passé.
Encore un drame de la santé. Dans son bureau, le directeur d'un grand magasin réprimande un surveillant.
Dufour, j'ai eu au moins 5 réclamations ce matin à votre sujet.
Ah.
Vous avez été impoli avec des clientes.
Oh, si vous saviez quelles questions idiotes elles viennent vous poser.
Idiotes ou non, avec la clientèle, il faut être poli.
Elle me porte sur les nerfs, mais je ne sais pas pourquoi, mais...
Ce ne sont pas vos nerfs. Quand un homme comme vous devient irritable d'un seul coup, il n'a qu'une chose à faire. Prendre une bonne dose de pilule Carter pour le foie. Très juste. Si vous ne vous sentez pas bien, essayez les pilules Carter pour le foie, exclusivement végétales et douces. Elles vous garantissent l'afflux du plus vital des sucs digestifs, la bile. Quand ce suc vital coule à raison d'un litre par jour, il nous permet de digérer nos aliments, arrête leur fermentation qui empoisonnait tout notre organisme, et ramène la régularité. Pour tout le monde, la vie devient rose. Exigez bien les petites pilules Carter pour le foie.
Bien entendu, vous l'avez compris, il s'agissait de publicités d'époque, mais je les aime beaucoup, c'est comme des petits morceaux de théâtre. Et pendant ce temps-là, la pluie continue à tomber. Et nous allons maintenant nous remonter le moral avec mon invité. Je suis très heureux d'accueillir, je vous disais tout à l'heure, le théâtre en personne, ce théâtre, ce vrai théâtre qu'il a si bien défendu et incarné contre vents et marées. Dieu sait que les marées ne sont pas toujours bonnes, mais le théâtre continue grâce à lui. Le théâtre et la musique, on va le voir, puisque j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Jean-Laurent Cochet.
Et ta lente avec la danse, avec la danse, avec la danse,
le double thorax.
Parmi le fracas immense des cuivres de Saxe, c'est le roi rempli de vaillance, pli, de vaillance, pli, de vaillance. C'est les deux Ajax.
C'est le roi rempli de vaillance, pli, de vaillance, c'est les deux Ajax. C'est le roi rempli de vaillance, pli, de vaillance, c'est les deux Ajax.
Je suis le bouillant d'Achille, le bouillant d'Achille, le bouillant d'Achille, le grand Myrmidon. Combattant un contre mille, grâce à mon plongeon. J'aurais l'esprit bien tranquille, n'était mon talon. Je suis le bouillant d'Achille, le bouillant d'Achille, le bouillant d'Achille, le grand Myrmidon, le Myrmidon.
Il est le bouillant d'Achille, le bouillant d'Achille,
le grand Myrmidon.
Il est le bouillant d'Achille, le bouillant d'Achille,
le grand Myrmidon.
Je suis l'époux de la reine, époux de la reine, époux de la reine, le roi Ménélas.
Le Ménélas.
Je crains bien qu'un jour Hélène, je le dis tout bas.
Il dit tout bas.
Ne me fasse de la peine, n'en dissipons pas. Je suis l'époux de la reine, époux de la reine, époux de la reine, le roi Ménélas, le Ménélas.
Ménélas.
Il est l'époux de la reine, l'époux de la reine, le roi Ménélas. Il est l'époux de la reine, l'époux de la reine, le roi Ménélas.
Bonjour Jean-Laurent Cochet. C'est l'un de vos rares enregistrements en tant que chanteur. Hein. J'ai déniché ça dans la discothèque de la Maison de la Radio.
Oui, je pense. C'est un merveilleux souvenir. C'était au Bouffe Parisien, sous la direction de Nicky Nancel. Oui. On avait fait un travail considérable, c'est une très belle distribution. C'était un spectacle très, très riche, très léger, très fin, très parisien. Oui. Comme on dit, elle était merveilleuse elle-même.
Et vous étiez Ménélas, hein.
J'étais Ménélas.
Le troisième qu'on vient d'entendre.
Voilà. Avec Pierre Tornade dans Calcas, Michel Roux, le chanteur, oui. Dans Agamemnon, Gélis avait fait des ballets. C'était un superbe spectacle.
Vous aimez bien d'ailleurs on peut dire que c'est quelque chose qui appartient précisément au monde de l'opérette, ces personnages qu'on appelle de fantaisistes,
oui.
Que vous avez fait aussi l'interprète dans L'Amour Masqué, qui sont des personnages qui sont ni tout à fait des chanteurs,
voilà.
mais vraiment des acteurs,
voilà.
Et qui sont là quand même dans les spectacles musicaux.
Ouais, oui, mais ouais. C'est un enchantement ça. C'est comme ça qu'il existe pas mal de disques d'ailleurs, que l'on peut entendre dans des extraits d'opérette, les plus grands comédiens des années 30, par
oui,
exemple.
Exactement. Exactement, oui, qui chantaient tous. Mais sans forcément avoir des voix de chanteur.
Ah, pas du tout, je pense à Michel Simon en particulier, ouais. Et il n'avait pas une voix de chanteur et il était irrésistible.
Et c'est quelque chose qui a un petit peu disparu d'ailleurs aujourd'hui,
oui.
Disons,
il y a beaucoup de choses
cette nécessité de chanter quand on
oui.
fait du théâtre.
Je oui. veux dire. Ben, moi je l'avais appris assez tôt parce qu'à l'époque, j'ai travaillé le chant très jeune, à peu près en même temps que le piano, mais à l'époque quand on était engagé à la Comédie Française,
oui.
Il fallait pouvoir chanter.
Ah
oui, voilà. Parce qu'il y avait toutes les comédies de la biche qui étaient des comédies à couplets.
Oui c'est ça. Oui.
Et il fallait même savoir bien se débrouiller.
Donc, ça faisait vraiment partie du métier.
Ah oui, complètement, ça, oui. Complètement. Oui,
voilà. Alors, vous l'avez dit à l'instant, vous avez parlé de piano. Il faut dire, Jean-Laurent Cochet, d'une façon générale, après on entrera dans le détail, mais que, même si on vous connaît, évidemment, pour toute une vie consacrée au théâtre, la musique, ça a été, en fait, une autre, peut-être l'autre passion
L'autre de votre passion, vie. L'autre, oui. Ça aurait pu être la seule, peut-être, étant donné qu'on m'y poussait beaucoup, et puis le verbe a tout emporté. Oui, j'ai commencé parce que mes parents l'ont souhaité, ça se faisait, vous savez, à l'époque, dans des ménages bourgeois, comme ça, à 6 ans, le petit garçon commençait du piano, en même temps oui. que la petite fille faisait sa couture.
Mais il continuait pas toujours.
Et il continuait pas toujours. Tandis que moi, ça a été un premier coup de foudre, et ça m'a mené loin, puisque d'un premier petit professeur de banlieue, je suis passé à une Madame Guérineau, qui était le grand professeur, qui présentait ses élèves au plus grand professeur encore, et c'est là que j'ai rencontré Jeanne-Marie Darré.
Alors voilà, il faut rappeler parce que tous les auditeurs, je suis sûr, ne savent pas que Jeanne-Marie Darré était une des grandes pianistes françaises du milieu du XXe siècle.
Ouais, hein. Oui. Tous ces enregistrements de Saint-Saëns en particulier
oui,
sont des merveilles.
Concertos, oui.
C'était une très grande interprète, très bon professeur, elle aussi, d'ailleurs.
Gentille.
Oh, ah, gentille, oui, très gentille, mais gentille avec le côté baguette, vous voyez, oui. Quand même, c'est une femme, on aurait pu dire qu'elle était un peu sèche si on la connaissait pas, et si on ne savait pas qu'elle était pleine de sensibilité, mais c'était, fallait pas plaisanter.
Ça se passait où, les sons avec
Jeanne-Marie Darré?
Chez elle.
Chez elle.
Voilà. Bon. Vous jouez encore du piano, Jean-Laurent Cochet? Vous en avez un, au moins, chez vous?
J'ai mon piano que je fais accorder régulièrement,
oui.
Pour faire, je ne me permets plus trop de jouer des choses que j'ai bien jouées, mais j'en profite pour faire de la technique.
Ah voilà.
Parce que ça, c'est quelque chose, d'abord, c'est indissociable, à mon avis, de la technique de l'art dramatique. Et puis parce que, on retrouve toutes ces bases, on retrouve tout ce sur quoi on s'est appuyé. La réaccentuation existe aussi au piano, oui, j'en fais le plus souvent.
Et
possible.
La musique, d'ailleurs, je précise, parce que je suis toujours avec beaucoup de bonheur vos spectacles, et notamment chaque fois que vous montez, par exemple, une pièce de Guitry, à Paris, une petite introduction musicale choisie par vous, je me rappelle, un concerto de Poulenc, par exemple. Dans Eau de Colombe,
etc. Poulenc qui m'a beaucoup servi, si j'ose dire, parce que je l'adore, je vous l'ai dit, je crois, c'est mon Mozart à moi, et il y a tout.
Ouais.
Dans Poulenc, alors que ce soit pour des petits entractes, que ce soit pour des ouvertures,
ouais.
Je m'en étais servi beaucoup, j'avais fait toute une partition avec des grands morceaux de son œuvre quand j'avais monté Corot, la pièce de Jacques Mougenot.
Ouais.
Ah oui, Poulenc, c'est l'homme de théâtre par excellence.
Alors on va, je l'ai dit, remonter plus en détail maintenant dans quelques-uns de vos souvenirs musicaux, Jean-Laurent Cochet,
oui.
En commençant par ce qui est peut-être pour vous d'ailleurs un souvenir de radio.
Mackies und die Hure Jenny
gedenken in einem Lied gemeinsam verbrachter schöner Stunden.
In einer Zeit, die längst vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm: Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr.
Das war so schön in diesem halben Jahr, in dem Bordell unser Haushalt war.
La ballade du souteneur extraite de l'opéra de Katsula, c'est la version originale allemande de 1930.
Oui, hein, c'est d'ailleurs pas celle-là que j'ai entendue la première fois, puisque c'était tout de suite après la guerre.
Oui.
J'étais, devais être en sixième ou en cinquième, et j'entends un matin à la radio, avant d'aller prendre mon métro pour aller au lycée, j'entends cette musique, je découvre cette musique par Florel, en l'occurrence.
La version française,
la version
évidemment.
Française, oui. Qui avait tourné le film avec Margot Lyon. Le film de Pabst aussi, les deux versions sont de Pabst.
Oui.
Et je me revois, mais ce sont des souvenirs incroyables. Je prenais le métro à la Porte des Lilas, je me revois descendre l'escalier de la Porte des Lilas en fredonnant cette musique que je venais de découvrir et qui n'était pas facile pourtant. Bah, vous voyez, c'est ça, vous parliez tout à l'heure des comédiens chanteurs, qui existent, ça n'existe quasiment plus en France, qui existent encore en Amérique. Toutes ces femmes qui entourent Barbara Streisand dans Funny Girl sont des comédiennes qui osent chanter, et c'est mieux que des chanteuses lyriques, quelquefois. Bon, bah, ça, c'est pareil, les Allemands, cette façon de croire qu'on chante faux, d'être d'une justesse incroyable et d'être toujours entre deux notes, c'est bouleversant. Moi, j'entends ça et ça y est, j'ai le cœur qui
sont dans des. Mais ce que faisait musique. Aussi encore en France un Bourville dans les années 50,
oui,
qui chantait est-ce que c'était faux ou juste
bien.
Il chantait pas bien, mais il chantait.
Il chantait en mesure, c'est ça qui est important. Voilà. Relativement à des gens de maintenant qui chantent. Mais pas en mesure.
Qu'est-ce qui fait que vous avez finalement choisi le théâtre plutôt que la musique, Jean-Laurent Cochet?
Bon, parce que j'avais commencé aussi très tôt mes cours de théâtre.
Ouais.
Quand je suis entré au lycée, je demandais déjà depuis 5 ans, 6 ans, je voudrais faire du théâtre. Et on m'avait dit, quand tu entreras en sixième. Et dès que je suis entré en sixième, à 10 ans, on m'a tenu parole. Mes parents ont été formidables sur toute la ligne. Et j'ai pris mes premiers cours. Et rien n'aurait pu m'empêcher, même continuant le piano, et j'ai continué longtemps, de ne pas jouer la comédie.
Ouais,
j'aurais pas
pu
à l'époque en parler comme j'en parle maintenant, la différence entre acteur et comédien, etc. Mais j'en étais, vous savez, assez bêtise, que disent quelquefois les gens, la peau de son rôle, ou vivre plusieurs vies, etc. Non, c'est justement être soi-même plusieurs, servir surtout plusieurs styles. C'est une passion pour le verbe, mais je n'imaginerais pas de vivre sans musique. Ça prend une place, ça n'a cessé de prendre chez moi une place tout à fait prépondérante. Même maintenant, vous me direz, il n'y a pas grand-chose à voir au théâtre, mais il ne se passe pas une semaine où je n'assiste à 2 ou 3 concerts.
On l'a compris, au passage, les théoriciens du théâtre, genre Stanislavski, ça, vous n'aimez pas, c'est pas votre tasse de thé, comme on dit.
Exactement. Il y a une très belle phrase dans Stanislavski, ce qui n'est pas beaucoup pour une œuvre aussi considérable, c'est quand il dit, à un moment, il faut faire comme si c'était vrai. D'autres l'ont dit, à commencer par Copeau, mais ça, au moins, c'est simple, c'est franc. Tout le reste, c'est un petit peu du bavardage.
Alors, Jean-Laurent Cochet, on saute un petit peu les étapes. Vous êtes entré à la Comédie Française en 1959.
Oui. Et j'y suis même entré, c'est important pour moi, en 56, parce que dès mon entrée au conservatoire, c'est l'époque où il y avait les deux salles. Oui. Vous savez, salle Luxembourg et salle Richelieu. Donc on avait besoin de beaucoup de comédiens, et en tant qu'élève, dès mes premières années de conservatoire, j'ai joué des choses très, très importantes. C'est comme ça que j'ai connu des très grands comédiens de l'époque.
Et vous nous parliez tout à l'heure de la musique, donc, au français, où il y avait encore un orchestre, un chef d'orchestre, un service de la musique, et des musiques de scène. Et alors, une figure que j'avais envie d'évoquer avec lui, avec vous, je ne sais pas si vous l'avez connu directement d'ailleurs, mais je sais que vous aimez sa musique, c'est Louis Betz, qui était un homme important aussi du monde du théâtre à ce moment-là.
Oh, je comprends. Ouais. Je ne l'ai pas malheureusement connu personnellement. J'ai l'impression maintenant de l'avoir connu parce que j'en parlais tellement avec Pierre Gaxotte. Vous savez, il y a des gens qui évoquent si bien ceux qu'ils ont aimés qu'on a l'impression qu'on les a rencontrés.
Ah, Gaxotte et Betz se connaissaient bien.
Oh, ah oui. J'ai le souvenir de toutes les histoires que me racontait Gaxotte, dont une en particulier que je vous dirai après, qui est assez belle, de la part de Louis Betz, qui est un homme d'esprit incroyable, qui a fait beaucoup de musique de scène. Au français, il avait fait la musique de scène du mariage de Figaro, qui est un petit bijou. Et puis surtout, cette chose que les gens savent peu, c'est que 29 degrés à l'ombre, qui est une des plus jolies pièces de la Biche, était une des seules sans couplet. Et on avait demandé, ça remonte loin ça, on avait demandé à Sacha Guitry s'il voulait bien ajouter des couplets et venir la mettre en scène.
Ah oui.
Et la musique de ces couplets était de Louis Betz. Et depuis, on n'a plus représenté la pièce que de cette façon-là. Et moi-même, après mon départ du français, je l'ai montée souvent, des dizaines et des vingtaines de fois. Et toujours...
Avec les couplets chantés.
Avec les couplets, et qui sont très difficiles à chanter. C'est une musique drôle, mais en même temps, c'est une musique savante.
Oui, oui, c'est très, très raffiné, notamment
le
pour les harmonies.
Le mot que je fais allusion, c'est... il a été directeur d'opéra comique aussi.
Oui, et critique au Figaro.
Et critique au Figaro, et musique de film, beaucoup, hein, pour Guitry et pour d'autres. Et puis, elle recevait des jeunes candidats, femmes ou hommes, pour savoir si on pourrait les engager à l'opéra comique. Et un jour, il écoute une jeune fille qui était là, toute rougissante, avec sa maman, plus rougissante encore, et il lui dit « Qu'est-ce que vous allez me chanter, mademoiselle ?» Et lui répond « Maître, je vais vous chanter un lied. » Alors, elle lui dit, mais je vous en prie, mademoiselle, faites ce que vous avez envie de faire. Et elle chante son lied. Et à la fin, la maman demande, comment a-t-elle chanté, maître? Comme un pide.
Oui, elle est effectivement très bonne. Alors, Louis Betz, vous êtes, je crois, assez mauvaise langue aussi comme critique, d'ailleurs.
Mais je sais pas. Ça, j'en ai parlé qu'un tout petit peu avec Clarendon, mais lui, il parlait surtout de Reynaldo Hahn, à qui il avait succédé.
Oui,
il était pas venimeux. Mais disons vénéneux, Louis Betz.
L'humour passe souvent par là.
C'est difficile, oui, bien sûr, quand on a tant d'humour, de ne pas accrocher un petit peu.
Alors, j'ai retrouvé pour vous un extrait de Moineau, belle opérette de Louis Betz, qui vous touchera d'autant plus que cet extrait fait directement allusion à Véronique, que vous avez mis en scène
il y a
quelques années à l'opéra comique.
Cette guinguette a son histoire, et cette escarpolette, c'est une escarpolette notoire. Véronique s'y balançait, la sous la jupe en mousseline, dans le caprice abandonné de l'escarpolette caline, se révélait la percaline d'un beau pantalon festonné. Poussez l'escarpolette, mon nom, je demeure hésitant. Les amours en troupe follette sont partis avec leur restant. Pourquoi pousser l'escarpolette qui se balance au gré subtil du vent léger? L'amour seul pourrait s'en charger. Laissons le zéphyr bocager. Poussez l'escarpolette. Je sens dans mon heureux délire, on verra dans quelques 30 ans un artiste accorder sa lyre aux voix des amoureux chantant. à travers la tendre chronique, les amants iront répétant l'aveu dont la ferveur unique, touchant le cœur de Véronique, fit le bonheur le faisant restant. Poussez, poussez l'escarpolaire, mon ange demeure hésitant. Les amours en troupe follette sont partis avec leur restant. Pourquoi pousser l'escarpolette se balance au gré subtil du vent léger? L'amour seul pourrait s'en charger. Laissons le zéphyr bocager.
Oui, c'est beau. Hein. Ah, c'est Willy Clément quand même.
Et c'est
hein.
Willy Clément que j'ai beaucoup vu quand j'étais vraiment tout petit à la Gaîté Lyrique, qui était encore un grand théâtre de lyrique. On avait essayé après avec Jean Poiret de se le réattribuer via les ministères, mais ouais. Ça n'a pas plu.
Mais vous alliez, quand vous étiez enfant, écouter les opérettes en famille?
Oui, en famille, parce qu'on ne me laissait pas sortir, j'étais tellement jeune, sans une de mes sœurs. Et c'est comme ça que j'ai vu Piaf au théâtre de Belleville, c'est comme ça que j'ai vu Mr. Guette, Casino de Paris. C'est pour ça que j'ai l'air d'avoir 100 ans, alors que j'en suis pas encore pas tout à fait là. Mais c'est ravissant. Je ne me souvenais pas d'ailleurs de ça. Willy Clément, voilà, il y avait Willy Tunis aussi.
C'est Gaston, le héros de Moineau, qui retourne à Romainville, envahi par la végétation.
Et vous pensez que ce sont des œuvres qui me touchent de près, d'avoir monté Véronique et de l'entendre ça, c'est que je suis né à Romainville.
Ah bon?
Alors pour moi, c'est vraiment remonter à la source.
Alors justement, parlons d'ailleurs de votre autre carrière, puisque vous avez 100 ans, vous nous l'avez dit, vous avez fait tellement de choses, moi j'ai quand je lis la liste des pièces que vous avez montées, interprétées, ça donne le vertige. Et donc, vous avez aussi été metteur en scène d'opéra et d'opérette.
Oui.
Hein. Vous avez notamment monté Les Noces de Figaro à Aix-en-Provence.
Oui, j'ai commencé
à
tout ça.
Du Surgé.
Voilà, tout ça grâce à cet homme sublime qui était Gabriel du Surgé.
C'était en 68. Hein.
Voilà. Et avant, j'avais mis en scène, la première chose qu'il m'avait demandé de faire, c'était à l'opéra Salfavar.
Le médecin malgré lui.
Le médecin malgré lui.
Ouais.
De Gounod avec tout le texte de Molière, en fait.
Oui, oui, oui. Très jolie pièce.
Délicieuse, délicieuse. Et on avait la chance d'avoir dans notre principal, et je le salue ici, puisqu'il est toujours parmi nous, le merveilleux Jean-Christophe Benoît.
Bien sûr. Oui,
c'était
oui.
Un rêve de le diriger aussi bien que comédien que comme chanteur. Et puis j'avais, c'est amusant, parce que dans les petits rôles de l'œuvre, c'était les débuts de ceux qui sont devenus après Roger Soyer et des grands interprètes comme ça. Et puis après, oui.
On peut dire, oui, c'est une des rares œuvres lyriques qui colle aussi près à l'original de théâtral,
complètement. À ce point-là, c'est une des seules.
ça.
Et les récitatifs, en quelque sorte, sont de Molière.
Voilà.
C'est ce qui est merveilleusement fait. Puis après, oui, il y a eu bien sûr plusieurs fois au Festival d'Aix, parce que ça avait été un tel triomphe, faut bien le dire, qu'on reprenait cette mise en scène-là tous les deux ans. Et alors c'est là que j'ai pu me faire les amis les plus tendres de gens comme Teresa Stich-Randall, Elisabeth Robson, enfin toutes ces distributions prestigieuses qu'il y avait à l'époque du grand Festival d'Aix.
Vous voulez dire que c'est moins bien?
Oui, j'y vais plus.
N'y allez plus. Alors, donc, Les Noces de Figaro, effectivement, Ariane Anaxos également.
Ah, ça.
Merveilleuse pièce.
Ça, c'est une des plus grandes joies de mon existence et c'est une des plus belles œuvres qu'on puisse imaginer. D'ailleurs, toute la musique de Strauss, hein, c'est immense.
Je partage ce goût avec vous. Alors, du côté de l'opérette, vous avez monté d'ailleurs La Belle Hélène dès 76 au Festival de Sarlat, j'ai vu. Où vous l'avez interprété.
À Sarlat, attendez, ça.
Ah, je... c'est ce que dit. Non, mais c'est très possible.
Enfin, elle a été créée au Bouffe parisien, ouais. Et on a dû. Oui, on l'a emmenée, bien sûr. On l'a jouée dans plusieurs villes de province, dans des grands festivals, effectivement. Et... On l'a beaucoup baladée, si j'ose dire, cette belle Hélène.
Et cette Véronique, alors donc de l'opéra comique.
Alors ça a été aussi un rêve. Ça, c'était sous l'ère de Liberman, mais surtout de Hugues Gall, en l'occurrence. Ouais. J'avais plus affaire à Hugues. Ouais, Liberman, c'était plus difficile, parce qu'il voulait mettre son grain de sel dans tout, il n'assistait pas aux répétitions, puis un jour il passait, il ouvrait la porte, il disait « Je veux pas de ce décor, changez-moi ça ».
Bon, ah oui.
Alors on résistait comme on pouvait, mais enfin il avait quand même la badine allemande. Mais avec Hugues Gall, ça a été un rêve, et on a eu une distribution merveilleuse.
Alors
avec
d'abord Odette Laure, qui était de vos grandes amies. Hein.
Grande amie, je l'ai connue en même temps que Madeleine Robinson, parce qu'elles étaient femmes, toutes les deux, de compagnons de la chanson.
Ah oui.
Je les ai connues ensemble. C'est même Madeleine qui m'a fait connaître Odette, à une époque où on parlait quasiment plus d'elle. Elle était partie pour le Japon, pour se refaire une santé, pour se refaire surtout une âme. Et à partir de ce moment-là, on s'est plus quitté.
Et aussi, d'ailleurs, une carrière, Odette Laure, très à cheval entre musique et comédie.
Absolument,
hein.
Absolument, les deux. Bah, c'est-à-dire qu'elle a surtout fait, elle avait surtout fait de la variété, du musical. C'était la diseuse parfaite, exemplaire, à la Yvette Guilbert. Et puis, c'est quand on s'est rencontrés que je l'ai amenée vers le théâtre. Et là, elle a joué des rôles qu'on aurait distribués dans une autre époque à des signorets ou à des femmes comme ça, tellement elle y mettait de poids, d'épaisseur, de profondeur. Une pièce de Vercors en particulier qui s'appelait Chat. Puis après, on n'a pas arrêté de travailler ensemble quand elle a fait avec Michel Morgan, quand j'ai monté Chérie, la pièce de Colette. Et c'était des femmes exceptionnelles d'intelligence et de sens du métier.
Et quand Odette Laure donc a arrêté Véronique, c'est
Suzy Devers, voilà, autre bonheur,
notre chère Suzy.
Suzy que j'attendais impatiemment de rencontrer un jour dans le métier.
Et
de ce jour-là, oui, parce que je la connaissais que de loin, du très fond de mon admiration pour tout ce qu'elle représentait, sa beauté. On a rarement joué de son temps la comédie. Avec ce modernisme, cette façon de réinventer.
Modernisme, vous dites.
Oh,
oui.
Mais c'est étonnant. On se demandait toujours, mais attends, c'est elle qui a fait son texte ou c'est vraiment le texte de l'auteur. Elle avait une respiration, une cadence, des accentuations incroyables. Et c'est ce qu'elle apportait d'ailleurs dans le chant aussi. Son enregistrement des trois valses, c'est une merveille.
Ouais.
Je ne veux pas comparer à Yvonne Printemps. Qui
non, mais elle
aussi...
arrive à en faire autre chose, justement.
Oh,
mais c'est pas facile quand on a la marque d'Yvonne Printemps dans l'oreille.
Elle a eu le même professeur, d'ailleurs. Et là, après, effectivement, dans Véronique, Suzy a repris le rôle qu'avait chanté Odette. Aux grandes dames de certaines dames choristes, parce qu'elles étaient assez outrées qu'une dame qui avait été une star de cinéma vienne prendre leur place de chanteuse.
Ah oui.
Alors, il y avait eu presque des cabales, et puis naturellement, on leur fermait vite la bouche, ne serait-ce que pour ne pas les entendre chanter elles-mêmes.
Alors on retrouve Suzy Delair justement dans les trois valses.
Voulez-vous, c'est obligé, par mon contrat je dois changer mes habitudes. Car malgré soi, pour s'imposer, il faut savoir se composer une attitude. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma, pour qu'on vous lance, être soi-même, c'est interdit. Alors, pour être dans l'ambiance, à chaque instant, je m'étudie. Moi, sérieuse, je dois jouir à la poseuse pour me poser. Mais je vous jure que ma nature a du mal à se maîtriser. On dit que j'ai des exigences, on pense que je fais des chichis. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Quand je suis dans l'intimité, je reprends ma simplicité, j'en suis heureuse. Je vis pour moi, je m'appartiens, mais au studio je redeviens l'enquiquineuse. Je ne suis pas ce que l'on pense, ne suis pas ce que l'on dit. Où tu n'aimes pas quelle existence, être soi-même, c'est interdit. Pour se donner de l'importance, il faut bluffer. Ça réussit. Sur mon visage, je me fabrique un maquillage dur et moqueur. Pour que l'on m'aime, je dois de même maquiller aussi tout mon corps. Ce n'est rien que pour l'apparence qu'au fond je joue la comédie. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit.
Les Trois Valses en 1968, Suzy Delaire avec l'orchestre dirigé par Richard Blaro. Jean-Laurent Cochet.
C'est un enregistrement, pardon, Benoît, oui. Dans lequel c'est celui où il y a Marie Marquet.
Également, je aussi. Crois, oui, oui, c'est ça.
Je ne sais pas si notre chère Suzy nous écoute parce que près de midi, c'était un peu tôt.
Oui, c'est un petit peu tôt pour elle.
Bon, mais sinon, on n'a pas besoin de lui apprendre à elle qu'on a rarement chanté de cette façon-là. Non seulement le timbre est exquis, mais c'est d'une intelligence, une finesse, l'homogénéité dans tous les registres, c'est du grand art, c'est unique, ça, c'est tellement français.
Je reviens un instant à Véronique que vous avez montée avec elle, parce que malgré tout, mettre en scène Véronique ou certaines pièces de la Belle Époque, c'est pas forcément facile, parce qu'entre l'esprit, disons, de l'époque d'Offenbach, Meillac à Lévy, l'esprit de Guitry, tout ça, ça marche tout seul, mais ces pièces un peu sentimentales, est-ce qu'on peut en tirer vraiment quelque chose au-delà de la musique?
Bien sûr, ça passe très bien. Mais il suffit, vous savez, d'avoir des interprètes qui aient de la sensibilité. Oui. C'est tout. Dans Florestan, j'avais la chance d'avoir François Leroux. François Leroux. Donc, il n'y a aucun problème. Ça passe très bien. Et puis, les airs sont tellement tendres que ça fait passer l'intrigue sentimentale, bien sûr.
En tout cas, voilà, Véronique, ça c'était en 1968. Et puis alors, dans toutes ces mêmes années, Jean-Laurent Cochet, vous avez aussi participé à quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans cette émission, c'était les fameuses rencontres du Palais Royal.
Les rencontres du Palais Royal.
Nous rappeler un petit peu.
Que l'on devait à ce merveilleux grand directeur de théâtre qui était Jean-Michel Rouzière, homme de goût en même temps, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire qu'il avait créé, il montait des pièces qui se jouaient en régulier, mais il avait créé ce qu'il appelait les rencontres qui avaient lieu le samedi après-midi et le lundi soir, le jour de relâche. Il y avait une rencontre par mois, c'était absolument somptueux. Tout le monde voulait venir là, si bien qu'il avait, un peu comme Guitry pour ses films, il avait les plus grands noms du théâtre.
Mais alors c'était comme un plateau
d'argent.
De musical, un peu, avec beaucoup de participants.
Il y avait un thème, il y avait un fil conducteur, si vous voulez. Ouais. Alors au gré des années, c'est devenu aussi bien un thème la biche, ou un thème l'opérette, ou tout ce qu'on veut. C'était Madame Dussane qui guidait ces rencontres avec un partenaire. Au début, il y a eu Charon, et puis tout de suite après, j'ai pris la place de Jacques, et c'est comme ça que j'ai été le responsable de toutes ces rencontres avec Dussane, après, quand elle est morte, avec Bernard Gavotti.
Oui.
Et puis on avait des grands invités, on invitait Jean Dutour, des gens comme ça, pour une certaine soirée qui leur était proche. Et puis on faisait des distributions où il y avait des scènes de théâtre, des actes entiers quelquefois, où il y avait des ensembles orchestraux.
De la chanson aussi.
Mais énormément de chansons. Moi je faisais venir toujours.
C'est comme ça que vous êtes lié à toutes ces chanteuses qui sont devenues vos amis. Je pense à Colette Renard,
À Patachou, bien. Bien sûr, Cora Vauquer, etc. Il y avait toujours la chanson était toujours représentée.
Oui. Alors, un mot de Colette Renard qui nous a quittés hier.
Colette Renard, oui, c'est bien douloureux d'ailleurs. Colette Renard, quand je la présentais, on a fait beaucoup de galas ensemble parce que je voulais toujours qu'elle soit à mes côtés quand elle était libre. Et en particulier, je lui avais réservé justement aux rencontres du Palais Royal une espèce de petit récital personnel et je l'avais présenté ce qu'elle avait trouvé exagéré, mais dans la façon de la touche de texte, si j'ose dire, et la finesse vocale, je l'avais présenté comme étant la Schwarzkopf de la chanson.
Ah oui.
Elle m'a dit, oh, ça, c'est quand même beaucoup. Je lui dis non, parce que pour chanter comme vous chantez, il faut le même art, la même science, qui savent se faire ignorer, que Schwarzkopf quand elle chante elle-même. Et il y a une chanson qui nous réunissait, et après, je me suis amusé à la chanter moi-même, dans certaines soirées poétiques où je mettais des chansons. C'est une chanson que lui avait apporté une dame, dont je ne me souviens même pas du nom, d'ailleurs c'est affreux, une dame qui avait écrit cette chanson, que je trouve un chef-d'œuvre, qui s'appelle Un piano.
Un piano, voilà. Alors, on l'avait copié pour aujourd'hui, mais le programme est trop vaste, mais on va écouter oui. Patachou dans le répertoire de Colette Renard.
Ah, dans Irma.
Dans Irma la Douce, voilà. Patachou aussi.
Patachou, on lui dira un petit bonjour aussi. Elle est plus souvent devant sa télé qu'à écouter la radio, je pense. Elle, en revanche, elle se lève tous les matins très tôt et elle a cette phrase merveilleuse. Tu penses, si je me lève tôt, puis je mets tout de suite la télé pour savoir si on annonce ma mort. Voilà l'esprit de tous ces gens-là, ils l'ont conservé. Oui, Patachou, grande comédienne, après avoir été la grande représentante de la France en Amérique, plus que Piaf passait à New York, au Versailles, mais toute l'Amérique, c'était Patachou, l'idole, et ben, écoutons-la.
Paris la nuit pour moi, c'est Paris boniment, la romance au néon qui se maquille et qui ment. Chagrin sec ou larmes, qu'est-ce que vous préférez? Y'a que du chagrin à boire et à pleurer. Oui, la nuit à Paris, tous les cafards sont gris. Et ça fait comme un coup du mal par où que ça passe. Viens bébé, viens chéri, j'ai de l'amour dans tes bris. Tu verras, gros jaloux, faut que ça pleure ou que ça casse. J'ai beau me la raconter, j'y crois pas, j'y crois plus. J'ai le cafard et c'est tout, et y'a pas de lanturlu. Y'a pas de chanson qui tienne, j'ai beau me la raconter. L'espoir, moins qu'il y en a, plus que c'est lourd à porter. Est-ce qu'il reviendra jamais mon petit homme qui m'aimait? Vous vous en foutez tous, Irma la Douce en crève. Bah pour moi, vous savez, vous pouvez tous crever. Comme ça, j'aurai mes soirs pour le revoir en rêve. Tout de même à supposer, tout d'un coup qu'il reviendrait, ça serait comme qu'il irait, ça serait le 14 juillet. Quelle fête, quelle nuit, quel boum, quel ciel et quel java. J'en ai les genoux qui tremblent, comme si qu'il était là. Tout mon marbre avec moi ferait flamber ma joie. En rouge, en vert, en bleu, comme un grand feu de Bengale. On danserait dans les rues et je croirais ce que je crois plus. Que le bon Dieu pour sûr règne enfin sur Pigalle.
Patachou, donc, dans Irma la Douce. Merci de m'avoir fait découvrir d'ailleurs cet enregistrement que je ne connaissais pas.
Ah, c'est bouleversant. On a la chair de poule.
Voilà.
Alors, on peut pas comparer avec Colette, c'est tellement différent. Ouais. Mais c'est bouleversant. Puis cette voix superbe et cette science du parler, de la clarté, tout ça, ça. Je t'embrasse, car j'espère que peut-être on te dira, tu es en ce moment sur les ondes, je t'aime, je t'embrasse.
Et moi, Jean-Laurent Cochet, chaque année, donc je vais vous applaudir avec beaucoup de plaisir, notamment dans les pièces de Guitry, dont on a déjà parlé, que vous soutenez avec passion, amour, bien avant qu'il ne revienne à la mode, parce qu'aujourd'hui,
oui.
Tout le monde en fait du Guitry, tant mieux. Mais
pas toujours tant mieux, d'ailleurs.
pas toujours tant mieux. Non. Mais c'est vrai que ça fait plus de 50 ans que vous défendez une certaine idée du théâtre, avec tout ce répertoire de comédies qu'on a longtemps associé à Paris, avec Feydeau, avec Labiche, avec Guitry, avec... Molière et Marivaux d'abord, et puis aussi le théâtre moderne, celui de Monterland, celui d'Anouilh, celui de Salacrou et de beaucoup d'autres. Et en même temps, cette idée-là du théâtre, on a l'impression qu'elle a, à part quelques scènes comme la vôtre, qu'elle a complètement disparu de cette grande ville qu'est Paris. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement depuis 40 ans?
S'il fallait en parler vraiment et en profondeur et dans toute la dimension que ça représente de dramatique, il faudrait des heures et des heures et des heures d'émission. Mais avant tout, il y a eu qu'un petit peu à cause de la politique qui a envahi le domaine artistique, il y a eu l'invasion aussi de beaucoup d'amateurisme. C'est très difficile d'en parler. Il y a un laisser-aller, on est en proie à des réseaux insensés. Il y a une telle impuissance.
Fossé entre théâtre public et théâtre privé, c'est quelque chose de relativement nouveau aussi dans l'histoire du théâtre, non ?
Oui, mais avant, il n'y avait pas de fossé, par exemple, entre la Comédie française et ce qu'on appelait le théâtre de boulevard, sans que ce soit péjoratif, c'est-à-dire les grandes scènes du boulevard où avaient fait leur métier Lucien Guitry et Réjeanne. C'était différentes sortes de théâtre, c'était différents auteurs, mais ils voisinaient très bien. Et la preuve, c'est que des auteurs comme Duvernois, dont on a entendu tout à l'heure des couplets, ou des gens comme ça, étaient après reçus à la Comédie française.
Mais vous avez prononcé le mot d'auteur. On a l'impression que ce sont justement les auteurs qui embarrassent un peu les metteurs en scène, parfois, aujourd'hui, dans le monde du théâtre, qui s'en passeraient bien des auteurs.
Oui, effectivement. Vous savez, c'est Monterland qui disait comme vous en mêlez ce qui vous sert et ce que vous prétendez servir. Ils se servent un petit peu, c'est le Tartuffe de Monsieur X d'après Molière. On n'entend plus que ça. Et il ne reste plus grand-chose de Molière. Et puis, alors, d'autre part, l'ennui, justement, c'est que il n'y a plus d'auteurs, de jeunes auteurs. Il en reste deux ou trois, mais des vrais auteurs de théâtre, qui ne soient pas des sketchs. Écoutez, ne venez qu'à faire la liste des spectacles qu'il y a en ce moment à Paris, même les moins mauvais, c'est pas du théâtre. C'est une espèce, il y a naturellement du one-man show, toutes ces choses-là, mais c'est pas le verbe, c'est pas le théâtre. Et le public se disperse à cause de tout ça. On le méprise, le public.
Mais alors, ce qui est extraordinaire, Jean-Laurent Cochet, c'est qu'on pourrait dire, alors voilà, Jean-Laurent Cochet, il tient un discours ronchon, un peu réac, etc. La réalité, c'est que c'est vous qui avez formé la fine fleur. Alors, des acteurs notamment de cinéma d'aujourd'hui, Depardieu, Lucchini, et beaucoup d'autres, élèves, vous adorent. Donc, en fait, vous avez une prise, mais plus peut-être du côté du monde du cinéma, avec la vérité du métier d'acteur aujourd'hui.
Oui, en définitive, oui. Et je suis d'ailleurs très fier quand on voit tous ces gens que vous venez de nommer, et quelques autres, et en particulier, bien sûr, Gérard, dans les Depardieu, dans les derniers films où on l'a vu, Mahmoud, tout ça, c'est des grands moments de profession française, d'intelligence, sont des mastodontes, ces gens-là, comme il y avait Victor McLaglen et comme il y a Stallone et Clint Eastwood.
Voilà, donc finalement, tout n'est pas perdu.
Mais il faut le croire.
En tout cas, on va retrouver une autre de vos grandes amies maintenant. Juste un petit mot avant d'écouter Marianne Bade.
On l'écoute. Sur le grand bassin du château de l'idole, un grand cygne noir portant rubis au col, dessinait sur l'eau de folles arabesques, les gargouilles pleuraient de leur rire grotesque. Un Apollon solaire de porphyre et d'ébène attendait Pygmalion assis au pied d'un chêne. Je me souviens de vous et de vos yeux de jade, là-bas à Marianne Bade. Là-bas à Marianne Bade. Mais où donc êtes-vous? Où sont vos yeux de jade? Si loin de Marianne Bade. Si loin de Marianne Bade. Je portais en ces temps étoile d'engoulevent qui chantait au soleil et dansait dans les temps. Vous aviez les allures d'un dieu de lune, un cas en ces fièvres, en ces lieux, en ces époques-là. Et moi, pauvre bestiole, au vent de vos envies, au cœur de vos dédales, je n'étais qu'Ophélie. Je me souviens de vous, du temps de ces urbains, là-bas à Marianne Bade. À Marianne Bade. Mais où donc êtes-vous? Vous chantez vos aubades si loin de Marianne Bade, bien loin. loin de Marienbad. C'était un grand château.
Barbara, encore une de vos amies, Jean-Laurent Cochet.
Ah oui, une grande amie que j'ai failli diriger. D'ailleurs, je ne me souviens plus, je ne me souviens que des bonnes choses. De la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. C'était une comédie musicale d'une grande qualité qu'avait écrite Raymond Forlani, qu'elle a joué d'ailleurs, je crois, à la Renaissance, et je ne sais pas pourquoi, c'est quelqu'un d'autre qui l'a mise en scène. Mais ça m'a permis de la fréquenter davantage et de travailler avec elle. Cette espèce d'exigence qu'elle avait, puis cette profondeur, on était vraiment...
C'est du théâtre aussi, ce qu'on vient d'entendre.
C'est du théâtre. Et là, ça vient de m'émouvoir particulièrement, je ne citerai pas de nom. Et puis on ne parle pas de sa vie sentimentale privée, mais Marienbad, pour moi, c'est un grand pan de bonheur et de mélancolie de ma vie.
Voilà, une belle chanson en tout cas. Et j'ai découvert d'ailleurs en l'entendant, parce que j'adore l'orchestration, que c'était William Scheller qui avait orchestré cette chanson-là.
Bien sûr, merveille.
Jean-Laurent Cochet, malheureusement, on va devoir se quitter dans quelques instants, mais je voudrais dire d'abord que vous allez peut-être reprendre votre dernier Guitry, qui n'est pas un des Guitry les plus connus que j'ai adoré. Tu m'as sauvé la vie.
La Pépinière. Mais on attend qu'un spectacle parmi tous les nouveaux venus ne marche pas autant qu'ils l'espèrent pour aller prendre la suite. C'est affreux de présenter des choses comme ça. Mais oui, on espère encore qu'il va y avoir une place pour nous vers peut-être même seulement en janvier, mais je crois que le public serait content.
Le cours Jean-Laurent Cochet ne désemplit pas.
Hein. Alors ça aussi, il faudrait des semaines pour en parler. C'est une merveille le travail qui se fait là avec des... C'est pour ça que je suis quand même très optimiste et plein d'espoir, parce que parmi les jeunes, parmi les miens en tout cas, il y a tout le théâtre à venir qui est prêt déjà, aussi bien par l'esprit, par le travail, voilà. Par l'intelligence, par la tenue.
Vous préparez la Renaissance.
Voilà, on m'a dit très joliment un jour, vous êtes un passeur d'âme. Et je crois qu'il faut que l'âme redevienne en jeu dans nos métiers artistiques pour ne pas sombrer comme c'est en train de le faire tout doucement.
Merci beaucoup Jean-Laurent Cochet. On va se quitter avec une chanson que vous aimez particulièrement d'Offenbach, mais d'une œuvre peu connue, Belle Lurette. Mm-hmm. Et c'est un morceau évidemment sur le théâtre.
Bien sûr. Et c'est parce que je l'avais fredonné, je l'avais mis souvent dans des spectacles à moi, je l'avais fredonné à notre merveilleux Jean-Marie Poilvet, cet agent artistique sublime qui nous a quittés. Ouais. Et c'est lui qui a donné l'idée à Felicity Lott de le chanter dans ses encores.
Merci Jean-Laurent Cochet et à bientôt.
Merci
sur
à
scène
vous.
Et au micro.
Un instant, mon cœur joyeux.
Félicity Lott dans cet air de belle lurette qu'aime particulièrement mon invité d'aujourd'hui, Jean-Laurent Cochet. Et Jean-Laurent Cochet, eh bien, vous pouvez le retrouver là dans les jours qui viennent à partir du 10 novembre, deux fois par semaine, dans un récital autour de Francis Jamm, récital poétique, mais en musique, avec un pianiste qui s'appelle Philippe Davenet. C'est à l'Auguste Théâtre, dans le 11e arrondissement, 6 impasse Lanier. Vous pouvez aller voir sûrement sur Internet aussi. L'Auguste Théâtre à Paris, récital Francis Jamm, par Jean-Laurent Cochet. Voilà, il est temps déjà, 12h12 sur France Musique, de retrouver notre chroniqueur. Et le lien est tout fait, puisque nous étions avec Offenbach et Belle Lurette. Eh bien, nous retrouvons tout de suite Jean-Christophe Keck. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Benoît.
Ça a dû vous faire plaisir
quand
on parle de Belle Lurette.
Oui, puis j'ai entendu parler de Louis Clément. Nous allons en parler d'ailleurs tout de suite. Parce que c'est vrai que alors que l'automne commence à faire place aux bourrasques de l'hiver, du moins dans mes hautes vallées briançonnaises, bien, j'ai pensé qu'un peu de soleil de la Jamaïque ne pouvait que nous réchauffer le cœur, non pas avec la musique de Carte Postale de Francis Lopez, mais avec un des meilleurs opéras comiques d'après-guerre d'Offenbach intitulé La Créole. Et ça tombe bien, car grâce à la fée documentaliste Martine Auger, nous avons pu restaurer une version enregistrée en 1956, version qui nous livre plusieurs petits trésors jusqu'alors inédits à l'enregistrement. Et pour commencer, l'ouverture dans son orchestration originale, nous n'en connaissions jusqu'à ce jour qu'un seul arrangement viennois de Peter Waldenmayer, très suroccastré. Et bien voici l'original, par un orchestre de la radio qui n'est, il faut bien le dire, pas dans sa meilleure forme, et qui n'a pas dû beaucoup répéter. Enfin, il faut bien le reconnaître, mais vous allez voir, les cordes, c'est pas toujours très bien.
quelle fougue. C'était Marcel Cariven en 1956 à la tête de l'Orchestre Lyrique dans La Créole de Jacques Offenbach dont nous parle ce matin Jean-Christophe Keck.
Quelle fougue mais aussi quel patinage dans les cordes. Enfin bon, j'espère un jour pouvoir vous faire entendre l'intégralité de cet enregistrement car même s'il s'agit de l'adaptation de Villemetz et des vulgarités qui l'accompagnent, il y a là une distribution tout à fait remarquable avec en tête d'affiche le grand Willy Clément dont vous parliez tout à l'heure et notre chère Claudine Collard. Claudine Collard que nous allons tout de même retrouver en compagnie de l'inénarrable Christian Duvalex. Il s'agit à l'origine d'un air destiné à Dora, l'héroïne de la pièce que Villemetz a jugé bon de transformer en duo. Ainsi, le pauvre Cartahu, qui n'a pas grand-chose à chanter dans la version originale, bien, se voit ici comblé de quelques répliques.
C'est dans la ville de Bordeaux qu'est arrivé trois beaux vaisseaux.
Trois beaux vaisseaux.
Et les matelots qui sont dedans sont tous des gaillards très galants.
Très galants.
Passe la femme d'un président qui voit l'un de ses gardements.
Oui, matelot, mon bon ami, vous me faites l'effet d'être bien jolie.
Madame, vraiment, je vous dis, si je suis jolie, vous l'êtes aussi.
Mon matelot, matelot, oh, charmant, je vais vous payer. Payer un petit vin blanc.
Oui, 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 qui donne les dames de Bordeaux. Oui, oui, oui.
Pendant trois jours, matelot aux abus.
Matelot aux abus.
Si bien qu'il en était confus.
Oui, tout confus.
Après les trois grands jours passés, il dit : Madame, j'en ai assez.
J'en ai assez, j'en ai assez.
Toi déjà tu veux me quitter?
Oui, j'ai bien pu, je veux m'en aller. Il s'en alla, c'est toi parti. Finalement, mon bon, tu maries, oui, tu maries. Vous, président, président de Paris, belle, je suis content.
Alors que, matelot, vous avez bu?
Oui, j'ai tant bu, tant bu que j'en peux plus.
Oui, 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 qui va me faire le porto.
Les couplets de Dora, extraits de la créole d'Offenbach, toujours Marcel Cariven en 1956. Ah, j'entends les petits... Après la pluie de ce matin, là, on dirait que ça se dégage, ça doit être l'influence de...
Nous faisons la chronique dans un jardin, tout le monde le sait.
De la créole d'Offenbach, Jean-Christophe Keck.
Voilà, je me suis rendu compte d'ailleurs en construisant cette chronique que celle-ci était finalement entièrement consacrée à ces deux artistes que nous apprécions tant et qui nous ont certainement, qui sont certainement deux des meilleurs chanteurs comédiens aussi, qui a pu compter la troupe de la radio, Claudine Collard et Willy Clément. Alors dans mes récentes découvertes dans cette caverne d'Ali Baba Kelina, j'ai trouvé un Orphée aux Enfers de 1956, ça s'en léchait les doigts. Et après une rareté comme la créole, voici de l'Offenbach plus connu, connu de tous même, mais dans ce que l'on fait de mieux comme interprétation, il s'agit d'un des sommets bouffons de ce chef-d'œuvre éternel, le célèbre Duo de la Mouche.
Et ça c'est fin. Sous ce costume, on passe partout. C'est elle. Oh. Qu'elle est belle.
Soyons séduisants. Voltigeons doucement autour d'elle.
Il m'a semblé sur mon épaule sentir un doux frémissement.
Il s'agit de jouer mon rôle, plus un mot car dès ce moment, je n'ai droit qu'au bourdonnement. Je n'ai droit qu'au bourdonnement.
Chantons ma chanson.
La belle bouche.
Ma
la chanson la touche. Chantons ma chanson. Quand on veut se faire adorer, il faut se faire désirer.
Je la tiens par son aile tendre.
Pas encore, pas encore.
Je la tiens par son aile tendre.
Pas encore, pas encore.
C'est la méchante, la méchante, la méchante.
J'ai pris des ailes, ma charmante, ma charmante.
C'est la méchante, la méchante, la méchante.
J'ai pris des ailes, ma charmante, ma charmante. J'ai bien le droit de m'en servir. J'ai bien le droit de m'en servir.
De cette gaze légère, sans l'étouffer, je puis faire filer un papillon.
Attention, attention. Prise des deux n'est pas celle qu'on pense. La plus prise des deux n'est pas celle qu'on pense.
Chante, chante. Chante, chante.
Yeah.
de la mouche d'Orphée aux Enfers par Claudine Collard et Willy Clément. Merci Jean-Christophe Krieg pour ce petit trésor que vous nous avez retrouvé. Je crois que vous avez encore quelques actualités
oui,
au Funbackien.
Bien sûr, bien sûr. Trois rendez-vous à noter dans l'actualité au Funbackien. Alors à Paris, tout d'abord, dans le 20e arrondissement, au Microthéâtre, des rendez-vous d'ailleurs, une série de pommes d'api et de chats métamorphosés en femmes. Sinon, bien sûr, les habitants de Briançon et des alentours en rateront pour rien au monde leur rendez-vous mensuel dans le cadre de la saison au Funback et ses amis. C'est le baryton Bernard Imbert qui interprétera le dimanche 27 novembre des extraits du 66, du Fifre Enchanté, la Péricole et bien d'autres œuvres, accompagnées par l'Orchestre de Chambre des Hautes-Alpes. Et pour finir, un événement parisien qu'attendent tous les amateurs d'Offenbach, c'est le rendez-vous avec les Tréteaux Lyriques qui nous offrent cette année un pont des soupirs que j'ai hâte d'aller entendre. C'est à l'Espace Cardin, vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site des Tréteaux Lyriques.
Merci Jean-Christophe, Offenbach se porte bien,
merci,
on est content, à bientôt.
À bientôt.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Nicolas Lafitte. Aujourd'hui à la technique Mathieu Tourin, entouré par Virginie Cassagne, Cyril Svetosevitch et Massi Amara. Réalisation Sophie Pichon. Et samedi prochain, je recevrai Marie-Paul Bell qui viendra nous parler de son nouvel album. Bon week-end à tous sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.